Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous pouvons être surpris. Nous sommes en plein carême et nous avons une page qui n'est pas, à proprement parler, une page de carême. La transfiguration. La transfiguration. Un petit peu comme un souffle, je dirais, pour continuer, partir, repartir, prenons le terme que nous voulons, dans le carême. Et c'est nécessaire, c'était nécessaire aux apôtres d'avoir ce passage extraordinaire de la transfiguration où notre Seigneur Jésus-Christ ne paraît plus comme homme, mais comme Dieu. Et d'ailleurs, les apôtres, quand Jésus est transfiguré, ils ne voient plus rien. Ils tombent à la renverse. Ils peuvent décrire un petit peu ce qu'ils ont vu. Son visage, le visage de Jésus, est lumineux, ses vêtements brillants, on parle de soleil, de lumière éclatante, mais ils tombent à la renverse, parce que saint Paul dira plus tard, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. C'est le ciel. Et ici-bas, aucun homme ne peut voir Dieu face à face et rester en vie. Dieu est tellement immense, infini, qu'il est impossible de voir Dieu ici-bas. C'est réservé pour le ciel. Mais aujourd'hui, dans cette transfiguration, c'est le ciel. C'est le ciel qui est présent. Notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré. Est-ce que c'est un miracle? Je dirais plutôt que c'est l'inverse qu'est le miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et il aurait dû toujours apparaître ainsi. Mais comme les hommes ne peuvent pas voir Dieu tel qu'il est, Jésus a fait un miracle, je dirais, en sens inverse, en se rendant visible ici-bas. Donc le miracle est de bien le voir dans sa forme humaine, dans sa nature humaine, parce qu'il est Dieu. N'oublions jamais cela. Quand nous lisons l'Évangile, nous voyons un homme, mais cet homme est Dieu, comme c'est important. Quand nous lisons l'Évangile, quand nous nous approchons de Jésus, ne regardons pas seulement l'homme, mais l'homme Dieu, Dieu qui s'est fait homme pour nous racheter. Et d'ailleurs, dans ce mystère de la transfiguration, de quoi notre Seigneur Jésus-Christ parle à Moïse et Élie? C'est saint Luc qui nous le révélera, ce n'est pas saint Matthieu. Quoique en saint Matthieu, il est dit que notre Seigneur leur enjoint de ne rien dire de ce qu'ils ont vu, ils ont été témoins, Pierre, Jacques et Jean, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc ils le diront après la résurrection. Mais avant, ils doivent se taire sur ce mystère indicible, insondable. Notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré. Mais saint Luc nous dit de quoi Jésus a entretenu Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi, Élie, les prophètes. Donc tout l'Ancien Testament est résumé dans Moïse et Élie, qui viennent à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parle de l'excès de ses souffrances qu'il devait endurer à Jérusalem. Au fait de sa gloire, il parle de sa souffrance. Vous voyez, ce miracle de transfiguration, ce mystère de transfiguration prend bien place dans le carême, où nous nous dirigeons peu à peu vers Pâques, mais avant Pâques, vers la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, sa passion, sa mort, entre deux larrons. Il est bon de méditer sur ce grand mystère de la transfiguration avec ce que Dieu le Père a dit au sujet de son Fils. Et je voudrais vous lire, comme vous n'avez pas l'occasion de lire le bréviaire, les prêtres, oui, eh bien, les matines, les réponses, les leçons des matines de ce dimanche. Et c'est saint Léon le Grand, pape du 5e siècle, qui a été choisi pour ce commentaire de la transfiguration. Écoutez bien ceci. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit. Et voici que de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Ça, c'est l'Évangile. Saint Léon commente. « Le Père, en vérité, était présent dans le Fils, et dans cette gloire du Seigneur, qu'il avait tempéré aux yeux des disciples, l'essence du Père n'était pas séparée de son Fils unique. Mais afin de proclamer la propriété de chacune des personnes comme la splendeur émanant du corps avait désigné aux yeux du le Fils, la voix sortie de la nuée annonçait aux oreilles le Père. En entendant cette voix, les disciples tombaient la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Et s'ils tremblèrent, ce ne fut pas seulement devant la majesté du Père, mais encore devant la celle du Fils. Ils comprirent en effet, plus profondément, que la divinité des deux personnes est une, et comme leur foi était sans hésitation, leur effroi fut sans mesure. Ce témoignage ainsi porté avait des sens multiples et fut perçu dans la valeur des mots plus que dans le son des paroles. Ces paroles du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis mes complaisances, écoutez-le, ne disait-elle pas avec évidence « Celui-ci est mon Fils, qui, en dehors du temps, reçoit de moi l'être et avec moi le possède. Car le Père n'est pas antérieur à celui qui l'engendre, et celui qui est engendré n'est pas postérieur au Père. » Mise à la Sainte Trinité. « Celui-ci est mon Fils, qui n'est pas séparé de moi par la divinité, ni divisé par la puissance, ni distingué par l'éternité. Celui-ci est mon Fils, non pas adoptif, mais mon propre Fils, non pas créé d'un autre, mais engendré de moi, non pas d'une nature et devenu comparable à moi, mais de mon essence né mon égal. Celui-ci est mon Fils, par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien n'a été fait. » Vous reconnaissez, mes chers frères, le prologue de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. « Car tout ce que je fais, il le fait semblablement, et toutes mes œuvres, il les accomplit avec moi par une action inséparable et non distincte de la mienne. En effet, dans le Père est le Fils, et dans le Fils est le Père, et jamais notre unité n'est rompue. Autre je suis, moi qui l'ai engendré, autre il est, lui que j'ai engendré, et pourtant, il ne vous est pas permis de penser de lui autre chose que ce que vous pouvez penser de moi. Celui-ci est mon Fils. » Il n'a pas recherché comme un butin, ni abusivement usurpé l'égalité qu'il a avec moi, mais demeurant avec moi dans ma nature glorieuse, mais demeurant, afin d'accomplir notre commun dessein de restaurer le genre humain, il a incliné jusqu'à la nature de l'esclave son immuable divinité. Écoutez-le. Deuxième partie de ce commentaire. Écoutez-le. Celui-ci donc, en qui je me complais en toutes choses, dont la prédication me manifeste, dont l'humilité me glorifie, écoutez-le sans hésiter, car il a la vérité et la vie, il est ma vertu et ma sagesse. Écoutez-le, lui qu'ont annoncé les figures de la loi, qu'a chanté la bouche des prophètes, écoutez-le, lui qui par son sang rachète le monde, qui enchaîne le diable et lui enlève ses armes, qui déchire la créance du péché et le pacte de la prévarication. Écoutez-le, lui qui ouvre le chemin du ciel et par le supplice de la croix vous prépare les degrés par lesquels vous montrerez au royaume, vous montrez aux autres au royaume. Quoi ? Vous craindriez d'être racheté ? Vous redouteriez qu'il vous guérisse vos blessures ? Que s'accomplisse la volonté du Christ qui est aussi la mienne. Rejetez toute crainte charnelle et armez-vous d'une constance inébranlable. Il ne convient pas, en effet, que vous craigniez dans la passion du Sauveur ce qu'avec sa grâce, vous ne redouterez même pas dans votre fin. Ainsi, mes bien chers frères, Saint Léon a bien raison de dire, à la suite du Père, écoutez-le, tout l'Évangile, il faut écouter l'Évangile. Comme disait ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'aime garde ma parole. Mais qui est la parole ? Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui m'aime me garde. Il faut garder notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Donc, en écoutant notre Seigneur Jésus-Christ, on garde sa parole. Et garder sa parole signifie pratiquer sa parole, mettre en pratique la parole du bon Dieu. Écoutez-le. Et il y a un rebondissement. Ou plutôt, oui, un rebondissement, une précision de ce que Notre-Dame a dit à Cana, au serviteur. Notre-Dame a dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et le Père dit à la transfiguration, « Écoutez-le. » C'est la même parole, elle se complète. Notre-Dame ne dit pas autre chose que ce que le Père dit. Notre-Dame n'est pas Dieu, mais elle est toute de Dieu. Elle est l'Immaculée Conception. On la fêtera bientôt dans son Annonciation. Notre-Dame dit les mêmes choses que le Père. Elle a la voix du Père. Elle transmet à nous, ses enfants, et les enfants de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez cette parole. Gardez-la intérieurement. Protégez cette parole. Répandez cette parole. Soyez fidèles à cette parole. Soyez fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ dans tout son enseignement. C'est tout l'évangile de l'Annonciation à la Passion jusqu'à la Résurrection. C'est tout l'évangile qu'il faut connaître, observer, garder intimement dans nos âmes. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que Jésus-Christ a parlé. Donc on n'a rien à inventer de nouveau, à chercher de nouvelles révélations. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre enseignement, est notre lumière, est notre béatitude, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.